Bien, Madame la Préfète, Mesdames et Messieurs les représentants du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les directeurs des services de l'État, merci de venir nous voir, comme il est de tradition chaque année, pour nous présenter le rapport d'activité de vos services sur ce territoire. Alors un rapport global qui nous a été communiqué, dont nous avons pu prendre connaissance, et puis de bien vouloir venir peut-être en expliciter les éléments les plus saillants, et notamment eh bien, l'ensemble des éléments de politique publique qui se font très souvent en interface avec le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Les dossiers ne manque pas. Nous avons des dossiers souvent complexes. Nous examinerons cet après-midi le plan de lutte contre la pauvreté avec une mobilisation départementale. Bien sûr, alors nous aurions souhaité encore plus de moyens eu égard aux ambitions affichées. Néanmoins, je crois qu'il y a des éléments positifs qui vont nous permettre d'apporter des réponses à un certain nombre de nos concitoyens les plus en situation difficile. Nous avons aussi un contexte de réforme fiscale, et j'ai rendu compte ce matin de l'entrevue avec trois ministres mardi soir, dont notamment le ministre des Comptes publics, des orientations qui se dessinent, qui sont porteurs d'un certain nombre d'inquiétudes et voire d'interrogations, mais qui vont nécessiter un temps de négociation intense dans les mois qui viennent, de nouvelles perspectives sur la péréquation nationale. Et nous avons aussi des dossiers compliqués, notamment les dossiers relatifs aux mineurs non accompagnés, et indépendamment de la question des modes d'évaluation, je dirais ceci n'est qu'une incidente de ce dossier plus global. Fondamentalement, bien sûr, c'est la question de l'accueil, et cette question de l'accueil, elle demeurera quelles que soient les modalités techniques mises en place. Nous le savons, la péréquation nationale fait que le département d'Ille-et-Vilaine sera fortement sollicité et de façon significative, qu'il y a derrière cela, bien sûr, des enjeux de mobilisation collective pour apporter les meilleures réponses, mais également, bien sûr, des enjeux de prise en charge financière, et ceci fait également partie des discussions qui sont portées au niveau national. Nous avons entendu quelques perspectives d'ouverture de discussion. Une perspective d'ouverture de discussion est toujours une bonne perspective. Néanmoins, bien sûr, la vigilance demeure forte, car nous avons connu des épisodes difficiles ces derniers mois. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous continuons d'agir pour ce territoire dans l'exercice des responsabilités dans lesquelles nous ne nous défilons jamais. Le département assume pleinement les missions qui sont les siennes, y compris lorsqu'il le fait dans un environnement fortement contraint, et nous en permanence, eh bien, nos équipes, vos équipes, essayent d'apporter dans cet environnement contraint, eh bien, les meilleures réponses pour les politiques publiques qu'il nous convient de porter sur ce territoire. Et je n'oublie pas, notamment à ce regard, le travail permanent que nous portons au sein du service départemental d'incendie et de secours, qui est une composante extrêmement forte, bien sûr, de l'engagement du département. Alors, Madame la Préfète, vous avez reçu un nombre important de questions. Mes collègues de la minorité ont eux-mêmes admis une prolixité importante, et je vais relayer juste un vœu qu'ils ont formulé. Vous voyez, Madame Le Callennec, je prends des risques. Vous nous avez fait part ce matin du fait que si Madame la Préfète ne pouvait traiter qu'un seul dossier, mais elle pourra en traiter davantage, eh bien ce serait celui d'apporter des réponses sur la problématique, notamment de l'argent de poche. Donc, Madame Le Callennec, mission accomplie pour ce qui me concerne. Vous voyez que ma bonne volonté ne saurait être mise en cause. Donc, sans être plus long, je vais passer la parole à Madame la Préfète. Donc, pour ces deux temps, une présentation de ce rapport et puis un temps d'échange pour essayer d'apporter les réponses à toutes les questions qui ont été les vôtres. Et nous disposons, je dirais, de près d'une heure et demie, ce qui me semble être un temps suffisant, je crois, pour cet exercice-là. Et puis à midi et demi, nous accueillerons l'Assemblée générale des anciens conseillers généraux et conseillers départementaux. Madame la Préfète, je vous laisse la parole.
Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l'État, je vous remercie d'être à mes côtés, notamment pour la séance de questions. Et si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, je voudrais aussi mettre à l'honneur ces directeurs et chefs de service de l'État au moment de l'échange sur les questions, parce que je trouve important aussi de mettre à l'honneur mes collaborateurs qui travaillent inlassablement à la résolution des problèmes complexes que nous avons à traiter quotidiennement. Je voudrais vous dire en introduction, et mes mots ne font pas que du bruit, ils ont un sens et ils sont empreints de beaucoup de modestie de ma part. Je voudrais vous dire que c'est un immense plaisir et un immense honneur pour moi de venir vous présenter le rapport d'activité des services de l'État en Ille-et-Vilaine pour l'année 2018. C'est un plaisir parce que, dans le contexte brétilien qui est le nôtre, il est toujours agréable de partager et d'évoquer le travail inlassable qui a été effectué en bonne intelligence avec le département. Et c'est aussi un honneur parce que rendre compte de l'activité des services de l'État devant le Conseil départemental, c'est en quelque sorte, et je le relisais hier soir très tard, je dois vous l'avouer, l'article L3121-26 du CGCT. L'article L3121-26 du CGCT, qui, on l'oublie souvent, est né des premières lois de décentralisation de 1982. C'est une manière de dire qu'au moment des premières lois de décentralisation, quand l'État a reconnu la pleine responsabilité des collectivités locales dans la fabrication du service public, alors il a acté le fait que l'État était comptable devant les collectivités territoriales de son action. Et je trouve que c'est une très bonne chose et je trouve que cette tradition, il faut absolument que nous en gardions ensemble la pleine signification. Les services de l'État sont comptables devant les collectivités territoriales de ce qu'ils font et de la manière dont ils prennent fait et cause pour les collectivités territoriales. Et ce que ne dit pas l'article L3121-26 du CGCT dans sa magnifique rigueur, mais un peu sèche, il faut bien le dire, composition juridique, c'est la chose suivante. Ce que signifie ce rapport des services de l'État devant le Conseil départemental, c'est la chose suivante. Qu'un État territorial légitime, c'est ma profonde conviction, fiable et apprécié, c'est un État qui prend fait et cause pour le territoire et qui, dans la mise en œuvre des politiques publiques, doit impérativement accompagner inlassablement ses projets. Cela va donc bien au-delà de l'obligation légale qui m'est faite de vous présenter l'action de l'État dans le département, et je suis sincèrement convaincue que cet échange que nous pouvons et que nous allons avoir aujourd'hui est un moment important pour échanger sur les actions mises en œuvre pour chacune de nos institutions et qui ne peut que servir l'intérêt du département et des citoyens. Nommé, comme vous le savez, mi-novembre 2018, et je me souviendrai toujours que j'ai été nommée lors du premier week-end de mobilisation des Gilets jaunes, et c'est une crise sociale qui s'essouffle un peu aujourd'hui. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que cela me permet de rendre hommage à l'action de mon prédécesseur Christophe Mirman. La continuité du service public, qui est une belle chose et qui, comme vous le savez, fait partie de ce qu'on appelle les lois de Roland du service public, m'a conduite sans hésitation à mettre mes pas dans les siens, et mon engagement, mon enthousiasme seront, je puis vous l'assurer, à la hauteur des siens. Vous avez pu le constater, le RASED pour l'année 2018 a été présenté sous une forme resserrée et un peu plus dynamique. C'est une volonté délibérée de ma part afin de renforcer la lisibilité de l'action publique dans le département. Ces derniers mois, dans le cadre du mouvement dit des Gilets jaunes et par la suite du grand débat national, de nombreuses interrogations ont été soulevées et le rôle de l'État, nous le savons tous, a fait l'objet de nombreux débats, les uns s'interrogeant sur l'efficacité de son action, les autres dénonçant des services publics insuffisamment présents et insuffisamment à l'écoute. Au-delà des inflexions que doivent nécessairement être proposées et des conclusions qui peuvent en être tirées en matière de politique publique, je crois sincèrement que ces événements nous invitent collectivement à faire œuvre de pédagogie, l'action de l'État n'étant pas toujours ni bien connue ni comprise. C'est pour cette raison que ce rapport, tout comme la présentation que je vais vous en faire, ne prétend nullement à l'exhaustivité, mais plutôt à mettre en lumière certains volets importants de l'action de l'État dans les territoires. Je vous invite évidemment à vous tourner vers les services de l'État qui sont à votre service, sans éprouver quelque hésitation que ce soit, si vous souhaitez un éclaircissement sur une politique publique. Je suis absolument attachée à des échanges fluides, francs, sans posture, qui nous permettent de nous comprendre. Depuis mon arrivée sur le sol brétilien en novembre dernier, j'ai pu apprécier l'étendue et les bienfaits de la méthode bretonne à laquelle le département d'Ille-et-Vilaine n'échappe pas, en laissant à la co-construction des politiques publiques une place sans égale. Et je crois pouvoir dire que cette place accordée au partenariat respectueux des contraintes de chacun, à l'échange, est véritablement un atout pour ce département. Les partenariats nombreux que cela occasionne ne seraient possibles sans la très profonde relation de confiance et la qualité du dialogue qui perdure et qui sont très enracinés dans nos relations. Cette relation forte entre l'État local et l'ensemble des collectivités d'Ille-et-Vilaine, il faut l'entretenir et c'est ce à quoi j'aspire pour les années à venir. Il s'agit aussi de nous inscrire dans le sens des évolutions à venir, puisque les prises de parole récentes du président de la République et du Premier ministre insistent sur l'importance de l'échelon départemental comme échelon de proximité. Le président de la République a eu l'occasion d'indiquer à plusieurs reprises que face à la crise majeure que connaissait notre pays, l'échelon départemental était un échelon pertinent et absolument nécessaire en termes de proximité et de solidarité. Choisi directement par les électeurs à travers un mode de scrutin permettant de garantir non seulement la proximité avec ceux-ci, mais aussi la parité de l'Assemblée, vous représentez les cantons, dont le président de la République a également récemment souligné l'importance. Il a en effet annoncé la création de 500 nouvelles maisons France Service permettant de doter chaque canton de France d'un accès facile et rapide aux services publics de proximité pour tous les citoyens. Je souhaiterais aborder devant vous deux grands axes qui guident l'action des services de l'État et renvoient à l'essence même de leur rôle au niveau local. Être au service du développement du territoire de l'Ille-et-Vilaine et agir pour le bien de tous les habitants, de tous les Brétiliens. Le dynamisme de ce département, et je m'en réjouis, nous astreint tous les jours à mener des politiques publiques ambitieuses et inclusives, et c'est ce dont je voudrais vous parler. Je reviendrai enfin brièvement sur la modernisation de l'État, sans laquelle la déclinaison de l'ensemble des projets sur notre territoire ne saurait être optimale. Dans un premier temps, permettez-moi de revenir sur l'action de l'État engagée pour le développement du territoire. Comme vous le savez, l'Ille-et-Vilaine est un département dynamique, avec des enjeux forts pour les années à venir. Je n'aurai pas pour horizon 2035 aujourd'hui, vous voudrez bien me pardonner, Monsieur le Président, mais l'ensemble des politiques publiques que les services de l'État ont pu mener en 2018 et qui continueront d'être déclinées cette année, car elles ont vocation à s'inscrire dans un temps long. L'équilibre du territoire, notamment entre les espaces urbains, les zones rurales et les aires périurbaines, m'apparaît comme un enjeu central. Au cours du dernier comité des territoires, a notamment été souligné combien il était important de maintenir un équilibre territorial fondé sur la complémentarité des territoires, avec une métropole jouant évidemment un rôle de locomotive, mais ne laissant aucune partie du département de côté. L'aménagement du territoire doit tenir compte des impératifs à la fois de solidarité et d'équilibre territorial entre la métropole rennaise d'une part et les différents pôles de centralité que constituent les villes de taille intermédiaire d'Ille-et-Vilaine, qui jouent le rôle de tête de réseau à l'échelle des bassins de vie, mais aussi d'échelle pertinente pour l'adhésion des citoyens. Je sais que la plupart d'entre vous sont favorables au maintien du maillage territorial actuel et éprouvent une réticence à l'égard du modèle lyonnais. Cela suppose néanmoins de conforter les villes moyennes dans leur rôle de centralité, de contenir la tendance continue de concentration des activités et des services sur la métropole. Parmi les multiples vecteurs pour encourager le développement du territoire, le soutien à l'investissement local est un outil majeur. Outre les dotations de fonctionnement allouées aux collectivités territoriales, qui s'élèvent à près de 640 millions d'euros sur la France entière, l'État contribue au soutien de leurs projets d'investissement. Le gouvernement a voulu, depuis 2 ans, maintenir à un haut niveau l'ensemble de ses interventions. En 2019, comme en 2018, la dotation globale de fonctionnement en Ille-et-Vilaine a augmenté. En 2018, les subventions d'investissement ont été portées à un niveau jamais atteint depuis plus de 5 ans. Permettant de financer les différents projets du territoire, la dotation d'équipement des territoires ruraux a atteint en 2018 12,5 millions d'euros. Il est prioritaire que les communes et les EPCI puissent maintenir leurs efforts en matière de bâtiments scolaires, de bâtiments publics ou encore d'équipements de sécurité. En 2018, ce sont 248 projets qui ont pu bénéficier d'un financement au titre de la DETR. Enfin, la dotation de soutien à l'investissement local a été mobilisée de façon croissante pour financer les contrats de ruralité, outils particulièrement pertinents pour le développement de nos campagnes et vecteurs de cohésion territoriale. En 2018, 5,8 millions d'euros ont été mobilisés au titre de la DSIL pour les contrats de ruralité, ce qui représente une augmentation de plus de 60% par rapport à 2017. Au-delà de ces soutiens financiers, l'équilibre du département est favorisé par des actions ciblées sur certains territoires. L'année 2018 a ainsi été marquée par la signature des conventions Action Cœur de Ville afin de redynamiser les centres-villes avec les 4 villes lauréates que sont Saint-Malo, Redon, Fougères et Vitré. Pour 2019, il s'agit désormais de définir avec les collectivités concernées les projets menés sur les 5 axes du programme, l'habitat, l'économie, la mobilité, les espaces urbains et l'accès aux services. La déclinaison opérationnelle des conventions signées dans le cadre de l'appel à projet Centre-ville-Centre-bourg, mené conjointement par l'État et la région Bretagne, fait également l'objet d'une mobilisation importante des services de l'État. Le second volet du développement du territoire, c'est l'accompagnement de la vie économique afin d'encourager son dynamisme. Nous avons la chance de vivre dans un département qui se porte bien. Le taux de chômage au 4e trimestre 2018 s'élevait à 6,5%, soit le taux le plus bas de la région Bretagne, au sein d'un écosystème composé de plus de 50 000 entreprises, ainsi qu'un taux de création d'emplois qui bénéficie de la croissance de certains secteurs, tels que le numérique. Cependant, pour maintenir cette vivacité, l'État doit en permanence accompagner les entreprises. Le soutien à l'innovation constitue un axe majeur du soutien aux acteurs économiques. En 2018, 39,5 millions d'euros ont été alloués aux entreprises au titre du crédit d'impôt recherche. Mais cela passe également par une politique visant à réduire les charges des entreprises qui peuvent peser sur leur compétitivité. En 2018, le CICE destiné aux entreprises du département représentait pour l'État une dépense de 270 millions d'euros. Même si certains secteurs économiques se caractérisent par une forte croissance, je pense notamment au numérique, l'agriculture demeure un pilier du département. J'ai récemment eu l'occasion d'effectuer une tournée de terrain, une sorte de trobraise agricole, à la rencontre du monde agricole dans de nombreuses exploitations, non seulement du département, mais également de toute la région Bretagne. J'y ai mesuré l'engagement et la persévérance de nos agriculteurs. J'ai pu y admirer la richesse de ces activités, mais également l'importance des aides financières pour nombre d'exploitants. C'est pour cela qu'une politique agricole forte est une composante essentielle de l'engagement de l'État pour le département. En 2018, les aides versées pour le premier pilier de la politique agricole commune de l'Union européenne, c'est-à-dire le soutien au marché et aux revenus des exploitants agricoles, se sont établies à 135 millions d'euros. Il s'agit de l'un des montants les plus élevés au niveau national. Mais le rôle de l'État consiste également à accompagner les entreprises lorsqu'elles rencontrent des difficultés. C'est par exemple le cas des manifestations de gilets jaunes qui ont eu des conséquences négatives sur la fréquentation des commerces, notamment du centre-ville de Rennes. L'État a, dès le mois de décembre 2018, proposé un plan d'aide aux commerçants afin de faciliter le recours au régime d'activité partielle ou de bénéficier d'un étalement des paiements de charges. Au niveau local, je tiens à souligner que tous les services de l'État se sont fortement mobilisés pour s'assurer que les entreprises avaient bien connaissance de ces dispositifs et qu'aucun frein n'empêchait qu'elles en bénéficient. J'ai en outre fortement soutenu la candidature de Rennes à l'appel à projet lancé par la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, et 300 000 euros sont venus compléter les efforts de la ville, importants, pour compenser les pertes des commerçants dues aux manifestations des Gilets jaunes. Dans le même esprit, le Brexit constitue une inquiétude majeure pour les entreprises du département. Outre l'anticipation des conséquences et des aménagements à réaliser, les services de l'État se sont donc attachés à informer et à sensibiliser les entreprises dont l'activité d'import-export avec le Royaume-Uni est importante. Elles sont plus de 500 en Ille-et-Vilaine. De nombreuses réunions d'information ont donc été organisées depuis décembre 2018 et un numéro vert a été ouvert en lien avec la CCI et la région. Si j'ai tenu à souligner ces deux exemples d'action envers les acteurs économiques, c'est avant tout pour illustrer la mission d'expertise et de conseil qui est celle majeure de l'État au niveau local, l'activité des différents services qui ne saurait se résumer au versement de subventions. L'État est aussi là pour apporter des réponses à des préoccupations locales et ponctuelles émanant des citoyens comme des entreprises. L'État doit savoir s'adapter et rassurer. Le département, et a fortiori l'aire métropolitaine rennaise, est confronté aux besoins de mobilité croissants des Bretiliens. Pour l'équilibre territorial que j'évoquais à l'instant, la question des transports est primordiale et constitue de ce fait un enjeu majeur des politiques d'aménagement territorial. Au vu du nombre d'acteurs, notamment institutionnels, qui interagissent sur ces problématiques, il me paraît fondamental de développer une approche coordonnée des politiques de mobilité dont, on le sait, ont été le déclencheur de la crise des Gilets jaunes. C'est également ce qu'envisageait mon prédécesseur lorsqu'il a créé en septembre 2018 un comité de coordination stratégique sur les mobilités afin de réunir aux côtés de l'État la région Bretagne, le département d'Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole. Je rassemblerai de nouveau l'ensemble de ces collectivités avant l'été pour prolonger cette démarche afin de tenter de fluidifier les flux, de favoriser le développement des modes de transports alternatifs et de permettre à chacune et chacun de relier tous les points du département. En matière de mobilité, le début d'année a également été marqué par la signature du pacte d'accessibilité pour la Bretagne en présence du Premier ministre et dont les répercussions pour les infrastructures du département d'Ille-et-Vilaine sont nombreuses. Pour l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques, avec un transfert en pleine propriété du foncier de l'État à la région Bretagne, en vue d'absorber la croissance future du nombre de passagers, mais aussi pour la gare ferroviaire de Rennes, l'État ayant confirmé sa volonté de faire du nœud rennais une priorité nationale. Le projet de rénovation de la gare de Rennes, visant à constituer un véritable pôle d'échange multimodal, sera d'ailleurs inauguré au début du mois de juillet prochain. Le pôle d'échange multimodal de Redon a quant à lui été finalisé en septembre 2018. Dans ce contexte de dynamisme et de développement particulièrement fort, il est cependant nécessaire de s'assurer de la soutenabilité des politiques publiques. La préservation de la ressource en eau est à ce titre un enjeu crucial pour le département. Sur le plan qualitatif tout d'abord, car seulement 7% des masses d'eau sont aujourd'hui conformes à la directive européenne cadre sur l'eau. Mais également sur le plan quantitatif, car avec l'effort démographique et le dynamisme économique, la consommation en eau est croissante. Il nous faut prévoir dès aujourd'hui de nouveaux moyens d'approvisionnement. Dans ce contexte, le transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI depuis le 1er janvier 2018 doit permettre d'atteindre des objectifs de préservation de cette ressource en eau, tant qualitativement que quantitativement. Je souhaite ainsi qu'un schéma renouvelé de la compétence GEMAPI soit élaboré en 2019 par les EPCI et les syndicats de bassins versants, et les services de l'État vous accompagneront dans cette démarche. La soutenabilité des politiques publiques passe également par la bonne santé financière des collectivités territoriales. L'année 2018 a été marquée par la contractualisation avec les plus grandes collectivités territoriales en vue de fixer des objectifs de maîtrise de la dépense publique. Le partenariat entre l'État et le département d'Ille-et-Vilaine a été renforcé à l'occasion de la mise en œuvre du premier contrat dit « contrat de Cahors ». Mon prédécesseur a signé avec vous ce contrat il y a tout juste un an, Monsieur le Président, le 30 juin 2018, ce contrat fixant le taux d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement à 1,2%, en contrepartie du maintien de niveaux de dotation conséquents. Je m'en réjouis, car cela permet à la fois d'assurer le bon fonctionnement des collectivités territoriales tout en les associant à l'effort de réduction des dépenses publiques. Dans la même période, 5 autres contrats ont été signés avec les collectivités prévues par la loi. Je veux citer la région Bretagne, Rennes Métropole, les villes de Rennes et de Saint-Malo, ainsi qu'une commune volontaire, Chartres de Bretagne. En 2019, il s'agit désormais de mesurer les résultats par rapport aux objectifs fixés par ces contrats et nous n'avons pas grand doute sur le respect par la collectivité des engagements pris. Le second axe que je souhaite développer devant vous, c'est celui d'une action de l'État au service de tous les habitants du département. Cela commence, et c'est dans les compétences de la collectivité, par la mise en œuvre d'une politique inclusive. La lutte contre la pauvreté est un enjeu crucial pour lequel la coopération entre nos services est importante. La stratégie régionale de prévention et de lutte contre la pauvreté a été présentée en décembre 2018 afin de proposer une feuille de route régionale. Il s'agit désormais de la décliner au sein même du département en engageant une démarche de contractualisation avec les collectivités. Je tiens à remercier très sincèrement le Conseil départemental pour avoir adhéré à cette démarche et je souhaite que les discussions en cours sur la convention pauvreté permettent d'améliorer véritablement le quotidien des personnes en difficulté financière ou sociale. Dans le cadre de cette convention, 750 000 euros seront mobilisés par l'État puisque j'ai pu obtenir 140 000 euros supplémentaires afin d'éviter, ce qui est votre souhait, Monsieur le Président, les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, cette dotation venant s'ajouter à l'enveloppe initiale de 609 000 euros. J'ajoute que les crédits du Fonds d'appui des politiques d'insertion, outil de financement partenarial qui apporte un soutien au département pour le renforcement des politiques d'insertion, se sont élevés en 2018 à 420 000 euros. Parmi les multiples outils pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables, l'hébergement est une politique centrale et prioritaire pour les services de l'État, l'accès au logement étant, nous le savons, la première condition de l'insertion. En 2018, l'État a investi près de 16 millions d'euros pour la veille sociale, l'hébergement d'urgence et l'accompagnement social des personnes. Je souhaite, avec mes services, porter une ambition forte dans ce domaine en 2019, notamment en ce qui concerne l'hébergement d'urgence. Nous avons obtenu 52 nouvelles places pérennes d'hébergement d'urgence qui vont ouvrir à destination des publics prioritaires, les hommes isolés en situation de détresse, les personnes victimes de violences et les femmes seules avec enfants, ce qui permettra de compléter les 315 places déjà présentes dans le département. Ainsi, avec les précédentes créations, le nombre de places d'hébergement aura plus que doublé en 2 ans. Au-delà de l'urgence de la mise à l'abri, l'accès au logement de façon pérenne a été favorisé par un accompagnement renforcé des ménages. En matière de logement social, l'investissement de l'État a été consolidé afin de pouvoir financer la construction de 2550 logements en 2018. La gestion de la répartition de ces aides vous est confiée pour une partie du territoire du département. Dans le domaine de la prise en charge des publics vulnérables, le département d'Ille-et-Vilaine est fortement concerné par la question de l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés, dont l'effectif pris en charge est passé de 272 en 2014 à 629 en 2018, soit plus de 131% supplémentaires. Après avoir ouvert 283 places d'accueil en 2017, votre collectivité a voté, lors de la session du mois d'avril dernier, un budget de 4 millions d'euros supplémentaires pour la protection de l'enfance, dont 2,2 millions consacrés aux mineurs non accompagnés. Je salue l'action du département qui assume ses obligations dans ce domaine sensible. Au-delà du logement, l'insertion des personnes au sein de la société est également une question économique. Encourager le retour à l'emploi a été un axe fort des politiques de l'emploi dans le département. Les contrats d'accompagnement dans l'emploi, les CAE, permettent notamment de faciliter le retour dans la vie professionnelle de celles et ceux qui en étaient éloignés. En 2018, ce sont près de 1236 contrats d'accompagnement dans l'emploi qui ont pu être signés. Les structures d'insertion par l'activité économique ont également été renforcées grâce au soutien accru de l'État, porté à hauteur de 12 millions d'euros l'année passée. Ces structures demeurent des pivots du retour à l'emploi en permettant de concilier un emploi salarié, la formation par le travail et l'accompagnement socio-professionnel. Les services de l'État se sont par ailleurs attachés à développer une politique inclusive à l'égard des demandeurs d'asile. Nous savons que le département d'Ille-et-Vilaine est aujourd'hui touché par une forte hausse de la demande d'asile. En 2018, le nombre de demandeurs d'asile a augmenté de plus de 20% et pour 2019, entre janvier et mai, les services de la préfecture ont déjà enregistré une hausse de 69% des demandes d'asile par rapport à la même période l'année dernière. Les services de l'État en Ille-et-Vilaine sont également mobilisés afin d'accueillir les migrants issus des campements nationaux au titre de la solidarité nationale. Cette situation implique nécessairement de renforcer les structures d'hébergement pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Des efforts ont d'ores et déjà été entrepris, puisque sur les 1168 places que compte le département, 448 ont été créées au cours des 2 dernières années. Cette dynamique est poursuivie en 2019 avec 50 places de plus en centre d'accueil des demandeurs d'asile, 71 places en centre provisoire d'hébergement et 50 places qui seront créées dans le cadre d'un dispositif préparatoire au retour. Être au service des Brétiliens, c'est également garantir la sécurité de tous, ce qui a été et continuera, comme mes prédécesseurs, d'être une priorité absolue. Permettez-moi de revenir brièvement sur le bilan de la délinquance et de la sécurité routière en Ille-et-Vilaine pour 2018. Trois tendances principales se sont dessinées, avec une augmentation globale des faits de délinquance, une augmentation du nombre d'interventions, un taux d'élucidation en forte hausse, et enfin, une augmentation du nombre de plaintes pour violences sexuelles qui ne sont bien sûr pas décorrélées du mouvement de libération de la parole qui a pu avoir lieu au niveau national, voire international. Ces évolutions nous obligent à accroître et notre vigilance et à redoubler nos efforts. Dans ce cadre, l'année 2018 a été consacrée à la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien. Cette politique vise à renforcer la présence des forces de sécurité sur le terrain et à mettre le travail partenarial entre les différents acteurs au cœur du processus, que ce soit avec la police municipale, les bailleurs sociaux ou les sociétés de transport. À titre d'exemple, 4 délégués pour la cohésion entre la police et la population ont été créés à Rennes et des patrouilles mixtes ont été instaurées, notamment à Redon. Cette stratégie sera prolongée en 2019 avec notamment, vous le savez, la création d'un quartier de reconquête républicaine dans le quartier rennais de Maurepas qui s'inscrit directement dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. Si j'ai fortement appuyé auprès du ministère le dossier de Maurepas, c'est parce que j'ai la conviction que le renforcement des forces de police et la mise en place d'une stratégie territorialisée pour ce quartier, deux des composantes essentielles du dispositif, seront efficaces pour réduire la délinquance qui demeure plus importante dans ce quartier qu'ailleurs. En matière de sécurité routière, les efforts de prévention et de répression conduits tout au long de l'année ont permis de réduire la mortalité routière de 11,5% par rapport à l'année 2017. L'alcool et la vitesse demeurent les premières causes d'accidents. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le barème pour la suspension des permis de conduire a été revu en 2018 afin de rendre le système plus répressif envers les récidivistes de conduites addictives. L'année passée, 2823 suspensions administratives de permis de conduire ont été prononcées par la préfecture. Vous êtes pleinement associé puisque le Parlement vient de voter la possibilité d'un assouplissement de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires qui serait à l'initiative des départements ou des maires. En proposant cette mesure au Parlement, le gouvernement a montré la confiance qu'ils témoignaient aux élus. Parmi les missions destinées à assurer la sécurité des Brétiliens, je pense qu'il est tout aussi important de souligner le travail effectué par les agents de l'État en matière de prévention des risques. L'un des principaux chantiers de l'année 2018 a consisté à poursuivre l'élaboration des outils de prévention et d'information pour être mieux préparé à l'éventualité d'une catastrophe naturelle ou technologique. Les dossiers de transmission aux maires ont notamment été actualisés pour leur déclinaison à l'échelon communal. Le suivi et l'accompagnement des maires dans l'élaboration des documents d'information communale sur les risques majeurs et des plans communaux de sauvegarde ont et continueront de mobiliser les services de l'État. En outre, 39 débits de boissons ont fait l'objet de visites des commissions de sécurité afin d'assurer la conformité de ces établissements recevant du public aux normes en vigueur. Enfin, le souci d'accompagner les citoyens brétiliens a trouvé sa traduction dans l'accompagnement constant de leurs démarches administratives. Avec la mise en œuvre du plan Préfecture Nouvelle Génération, les procédures relatives au titre ont été profondément renouvelées au travers notamment d'une digitalisation des procédures. S'il s'agit d'une étape essentielle pour la modernisation de l'action publique, elle ne doit pas se faire au détriment des citoyens, ni laisser la possibilité de créer une rupture, une fracture administrative ou numérique. C'est pour cette raison que les agents de l'État accompagnent chaque jour les usagers dans leur démarche. Pas moins de 10 points numériques sont disponibles dans le département, dont 6 à la préfecture de Beauregard, 2 à la sous-préfecture de Saint-Malo et 1 dans les sous-préfectures de Redon et de Fougères, au sein desquels des médiateurs numériques prêtent assistance aux administrés. La présence d'un guichet en préfecture a, en 2018, une nouvelle fois montré son utilité pour l'information des usagers et constitue en ce sens un complément pertinent au développement des maisons de services au public. L'accessibilité des services au public constitue quant à elle une priorité majeure du gouvernement. La densification des maisons de services au public sur le territoire est à ce titre un axe structurant des réformes engagées par le président de la République afin de proposer aux citoyens un lieu unique dans chaque canton. C'est un enjeu fondamental pour l'égalité entre tous les citoyens, mais également pour répondre avec le plus de diligence possible aux besoins de proximité avec les services publics exprimés ces derniers mois. En 2018, le département comptait 7 MSAP et une 8e vient d'être installée à Saint-Méen-le-Grand. Dans ce cadre, je souhaite que nous nous saisissions collectivement et pleinement du schéma départemental de l'amélioration des services au public que j'ai l'honneur de coprésider avec vous, Monsieur le Président, pour garantir ce maillage territorial des services et prolonger les nombreux efforts qui ont déjà pu être conduits de façon coordonnée entre les services de l'État et le département. Le premier forum de l'accessibilité des services organisé en décembre dernier a été l'occasion de revenir sur les travaux menés par les différents groupes de travail. Pour 2019, je souhaite qu'un observatoire permanent de l'accessibilité aux services puisse être mis en place afin de disposer d'une connaissance fine et actualisée des éventuels manques sur tout le territoire. Avant de conclure mon propos, je voudrais évoquer l'organisation interne des services de l'État, d'autant plus que certains projets vous concernent directement. Je veux bien sûr parler du projet de nouvelle préfecture pour lequel des avancées majeures ont été conclues ces derniers mois. Un comité de pilotage pour la construction du bâtiment a été mis en place et se réunit régulièrement sous ma présidence. Le projet a été labellisé il y a maintenant un peu plus d'un an par la direction de l'immobilier de l'État et, selon le calendrier actuel, nous pouvons espérer un déménagement pour 2022. Je tenais donc à vous en parler, étant bien consciente des contraintes immobilières qui sont les vôtres et du regroupement nécessaire de vos services que pourra rendre possible le déménagement de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du site de Beauregard. Nous ne serons plus, certes, les voisins immédiats que nous sommes aujourd'hui, mais je n'ai aucun doute que les liens et partenariats forts entre nos deux institutions perdureront de la même manière. Dans le domaine des réformes, je ne veux pas passer sous silence la circulaire toute récente que nous avons reçue, datée du 12 juin du Premier ministre, qui nous invite à une réorganisation. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais à une réorganisation assez substantielle des services de l'État qui verra une réorganisation de l'échelon départemental, mais aussi de l'échelon régional. Je tiens en conclusion, mesdames et messieurs, à vous réaffirmer ma très réelle volonté de prolonger la coopération forte qui se construit chaque jour avec votre institution et qui est un maillon essentiel pour le bien du département et de ses habitants. Je me tiens à votre disposition pour l'ensemble des questions que vous voudrez bien me poser et je vous remercie pour votre attention.
Bien, Madame la Préfète, avant de vous permettre de répondre aux différentes questions qui vous ont été adressées, j'apporte trois points que je tiens à porter à votre information, certains pouvant d'ailleurs être en lien direct avec les questions qui vous ont été adressées. Ce sont des éléments d'information que j'ai apportés à l'Assemblée lors de mon propos d'ouverture. Alors, comme il s'agissait de bien commencer la journée, je n'ai pas manqué de faire état de l'abondement de près de 140 000 euros au titre du plan pauvreté, notamment au titre de l'action contre les sorties sèches de l'ASE. Alors, ceci nécessitera que nous travaillions une solution d'amendement par rapport à notre rapport initial. Mais quand il s'agit d'agir en ce sens, soyez assurés que nous trouverons une solution permettant de mobiliser ce financement complémentaire. Sur la question de la contractualisation, j'ai aussi fait état du fait que nos investigations croisées et expertes de nos différents services conduisaient à la conclusion d'une non-application de pénalité. J'ai aussi rappelé le contexte qui a permis cela, et l'an passé, le 15 juin en session, nous avions dû prendre la décision d'un report exceptionnel de ce dossier pour se donner 2 semaines de plus de discussion avec votre prédécesseur, le préfet Mirmand, l'équipe de Denis Aulagnon, et cette mobilisation et l'intensité des discussions, je dirais, dans la dernière ligne droite, avait permis de trouver le point d'équilibre qui n'avait pas été atteint le 15 juin et qui permettait notamment de prendre en compte des contraintes spécifiques d'un département en très forte croissance et donc de neutraliser un certain nombre d'éléments du champ de la contractualisation, car je l'ai indiqué ce matin, sans cette discussion et cette prise en compte, nous serions exposés à environ 2 800 000 euros si on en était resté à une lecture, j'irais dans la plus stricte orthodoxie, l'orthodoxie la plus fermée. Donc il était utile l'an passé que nous ayons cette discussion, et je rends hommage à l'ouverture de votre prédécesseur et de son équipe pour avoir permis qu'il en soit ainsi. Je crois que c'est aussi parce que, me semble-t-il, les arguments que nous avons mis sur la table à ce moment-là méritaient d'être entendus. Et puis, j'ai aussi informé l'Assemblée départementale qui, ayant été interrogée sur cette question de la mise en place du fichier ou répertoire des mineurs non accompagnés, que j'étais dans une position d'attente d'une décision de notre plus haute juridiction, le Conseil constitutionnel, lui-même ayant été saisi par le Conseil d'État sur une question préalable de constitutionnalité, et qu'il me semblait nécessaire d'avoir cet avis pour, le cas échéant, avancer avec vous dans la discussion sur les modalités, sachant qu'en général, les délais de réponse sont d'environ 3 mois. Donc, je pense qu'une décision devrait être rendue publique d'ici la fin de l'été sur ce point. Et c'est donc notre position d'attendre la décision du Conseil constitutionnel saisie par le Conseil d'État, dont chacun connaît la sagesse. Bien, alors je ne sais pas comment nous procédons. Vous avez sans doute listé les questions, vous y répondez.
Si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, sur le point de la contractualisation, je voudrais illustrer ce que je vous disais, à savoir que j'avais résolument mis mes pas dans ceux de mon prédécesseur, parce qu'il en va de la continuité du service public, et de la même manière que pour l'exercice 2018, le travail a permis de neutraliser certaines dépenses, je voulais dire à votre Assemblée que je soutiens absolument la demande que vous avez formulée, que je trouve absolument légitime, de neutraliser au titre de l'évolution des dépenses de fonctionnement en 2019 la construction par le Conseil départemental de 3 collèges qui doivent accueillir, si ma mémoire est bonne, 2 700 élèves, et il me semble que les charges qui pèsent, c'est la rançon de la gloire, si je puis dire, sur un département dynamique, méritent qu'on ait un œil bienveillant sur l'évolution automatique des dépenses de fonctionnement. Je ne peux pas préjuger de la réponse qui me sera faite par l'administration centrale, mais ce que je peux dire, c'est que mon engagement est total à vos côtés pour porter cette demande.
Vous savez pouvoir compter également sur mon soutien pour essayer de le faire aboutir de façon convergente. Alors, nous allons passer donc à cet exercice. Je crois que vous allez parfois solliciter vos collaborateurs les plus en charge des dossiers en question. Donc, je vous laisse la main.
Alors, pardonnez-moi d'avance si je n'ai pas repris les questions qui m'ont été transmises dans un ordre absolument logique. Pardonnez-moi aussi d'utiliser un joker sur certaines questions parce que, plutôt que d'essayer de balbutier une réponse technique, j'implore votre bienveillance parce que je ne suis là que depuis 6 mois. Et même si j'ai pu prendre la mesure d'un grand nombre de problèmes, je préfère passer la parole à mes collaborateurs. Et c'est aussi une manière de mettre en valeur le travail qu'ils font pour votre collectivité. Alors, la première question, on va du coup passer très vite. Donc, la question qui m'était posée, le 31 janvier 2019, le décret autorisant la création d'un fichier d'appui à l'évaluation de la minorité était publié au Journal officiel. Qu'en est-il aujourd'hui en Ille-et-Vilaine? Monsieur le Président a apporté la réponse. Je trouve qu'il est légitime, dès lors qu'une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée, d'attendre la réponse avant de s'engager dans un dispositif. Et je voudrais juste compléter en redisant que je salue l'engagement du département pour porter une charge qui est extrêmement lourde. Je voudrais aussi dire que, évidemment, ce fichier n'est pas la panacée, il n'est pas l'alpha et l'oméga de la résolution du problème des mineurs non accompagnés. Et je voudrais dire aussi que si 73 départements, France entière, ça faisait partie de la question, se sont engagés dans la démarche, au sein de la région Bretagne, toutes les collectivités ne s'y sont pas engagées. C'est notamment le cas du département du Finistère, ce qui illustre le fait que une collectivité départementale a le droit de s'interroger sur la pertinence de ce dispositif qui, encore une fois, n'est pas la panacée. Quand on sait aussi, Monsieur le Président, que vous écartez d'ores et déjà par un processus interne un certain nombre de mineurs, les trois quarts des mineurs qui ne répondent pas aux conditions de mineurs non accompagnés. Voilà les quelques éléments de précision que je voulais apporter. Deuxième question, des associations rencontrent régulièrement des difficultés pour trouver des solutions d'hébergement à des familles déboutées. Devant l'urgence, les élus des territoires concernés sont parfois, le parfois minore un peu, je pense que c'est souvent, et voire très souvent, sollicités. Un guide pourrait-il être proposé aux élus afin d'apporter une réponse appropriée aux interpellations? Alors, je confirme, la situation de la demande d'asile en région Bretagne et singulièrement dans le département d'Ille-et-Vilaine est préoccupante. Elle est préoccupante parce que, pour un certain nombre de raisons, parce que sur l'ensemble du territoire national, on assiste plutôt à une baisse de la demande d'asile, et elle est préoccupante, et c'est un souci qui doit, par la force des choses, devenir collectif. Nos capacités de prise en charge et d'hébergement sont limitées. Enfin, pour ce qui concerne les services de l'État, et en application directe de la loi toute récente, elle date de septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, l'objectif qui nous est assigné et qui est clair consiste à mieux accueillir les personnes sous statut, singulièrement les réfugiés, et à mieux éloigner les personnes qui n'ont pas de droit à rester sur le territoire national. Donc cette demande d'asile, en très forte augmentation, elle se concentre en Ille-et-Vilaine et elle concerne principalement, il faut le dire aussi, des nationalités qui n'obtiennent qu'à de très faibles proportions le statut de réfugiés. Je veux parler des Géorgiens et des Albanais qui ont des chances d'obtenir le statut de réfugiés, respectivement de 5% en moyenne pour les Géorgiens et de 8% pour les Albanais, s'agissant, vous le savez également, de deux pays dits « sûrs ». Alors, en réponse directe à la question, et la demande d'asile est dans une progression telle que cette demande d'asile déborde sur l'hébergement d'urgence des personnes isolées en situation de détresse, des femmes victimes de violences conjugales, et près de 20% des capacités dont j'ai indiqué dans mon rapport qu'elles avaient doublé en 2 ans, 20% de ces capacités d'urgence sont occupées par des demandeurs d'asile, en grande partie déboutés. Et donc ma réponse, qui ne peut être que celle-là, et très sincèrement, c'est une mission extrêmement complexe pour la préfecture. Ma réponse est simple, elle ne peut être que celle-là. Les étrangers déboutés n'ont pas vocation à être hébergés, notamment dans le dispositif d'urgence de droit commun. Et parce que j'ai conscience qu'il manquait à notre dispositif général l'accueil et notamment l'hébergement des demandeurs d'asile et puis le raccompagnement de ces demandeurs d'asile déboutés définitivement et notamment ceux, c'est la majorité en Ille-et-Vilaine, qui viennent de pays dits sûrs, c'est notamment le cas de la Géorgie, et les Géorgiens viennent en France en raison de problèmes de santé, et je sais que le ministre de l'Intérieur a eu à haut niveau des relations et une rencontre toute récente avec les dirigeants de ce pays, mais parce que j'avais conscience qu'il manquait un dispositif, nous allons ouvrir, ça anticipe sur la réponse que je ferai plus tard à une autre question, nous avons décidé d'ouvrir à compter, je me tourne vers mon secrétaire général du mois de septembre, il est à droite, du mois de septembre, à l'automne, septembre je m'avance un peu, alors à l'automne, un dispositif dit d'aide au départ, d'une capacité à terme de 80 places, qui permettra de compléter les capacités d'hébergement de l'État, accueil et hébergement des demandeurs d'asile, prise en charge des demandeurs d'asile déboutés et incitation, notamment financière, et accompagnement de ces étrangers pour les convaincre de la nécessité de regagner leur pays d'origine. Donc je ne vois pas vraiment l'utilité d'un guide, puisque le principe que j'ai eu l'occasion de rappeler, parce que je crois que sur ces sujets, il faut que nous soyons clairs, transparents et francs. J'ai réuni récemment l'ensemble des parlementaires du département pour leur expliquer ce qu'était la situation de la demande d'asile, les difficultés évidentes et la thrombose que cela occasionnait dans les structures d'accueil d'urgence, et pour les sensibiliser au fait, même si je peux comprendre que l'on nie ce que j'appelle un effet d'appel d'air, mais cet effet d'appel d'air existe. Plus un département est attractif, plus il attire une demande d'asile, mais un demandeur d'asile débouté définitivement, je crois que l'honnêteté consiste plus à l'aider à regagner, y compris financièrement, son pays qu'à lui faire croire qu'il a un avenir dans ce pays. Sur la contractualisation, je ne crois pas utile d'y revenir, sinon pour redire que effectivement le travail qui a été mené a permis de retraiter pour le calcul de l'évolution des dépenses de fonctionnement 20,2 millions d'euros de dépenses au cours de l'année écoulée. Et parmi ces dépenses, il nous a été permis de neutraliser l'augmentation au-delà du taux d'évolution de 1,2% des dépenses, les dépenses de prise en charge des mineurs non accompagnés. En d'autres termes, comme ces dépenses ont été retraitées, c'est une reconnaissance que je trouve absolument normale qui a été accordée par le ministère de la charge très importante que ce dossier constitue pour le département. Donc c'est une reconnaissance, Monsieur le Président, de vos efforts, mais de la charge que cela représente. Une question m'a été posée sur les nuisances sonores de la ligne à grande vitesse, et je l'avais prise, mais je ne vais pas feuilleter mon dossier, je ne me souviens plus tout à fait du courrier que vous m'avez adressé, Monsieur le Président, en tout début d'année, proposant que le département s'engage pour remédier à son niveau, à la détresse, je crois que le mot n'est pas trop fort, d'un certain nombre de riverains. Il y a 90 maisons identifiées en tout sur la ligne, face aux nuisances sonores occasionnées par la ligne à grande vitesse. Et la réponse que je vous avais faite, vous disiez en substance ceci, la ministre en charge des transports a missionné le Conseil général de l'environnement et du développement durable et lui a confié un rapport et l'élaboration de préconisations pour traiter ce problème. Nous avons, les riverains surtout, attendu beaucoup ce rapport qui a finalement été rendu public le 2 mai dernier. et à la suite du rendu de ce rapport qui reconnaît deux choses. D'abord que réglementairement, les nuisances sonores n'excèdent pas les prérequis réglementaires, mais qu'il est indéniable que les pics de bruit occasionnés par le passage du train à grande vitesse génèrent pour un certain nombre de riverains des nuisances qui ne sont pas admissibles. Donc à la suite de la restitution de ce rapport le 2 mai, la ministre des Transports, Madame Borne, m'a confié la mission de coordinatrice interrégionale en charge du suivi des financements et de la réalisation des travaux complémentaires de traitement des nuisances. Je dis en charge du suivi des financements parce que l'État a annoncé la création d'un fonds de 11 millions d'euros financé à parité par les collectivités et le conseil régional afin de mettre en œuvre un programme de traitement de ces nuisances sonores en fonction de l'expertise qui sera faite, des possibilités pour isoler chacune des maisons concernées par ces nuisances. Ma première préoccupation a consisté à réunir au niveau départemental et non pas régional comme le suggérait un peu ma lettre de mission, mais à réunir au niveau départemental, tout comme l'ont fait mes collègues de la Sarthe et de la Mayenne, un comité de suivi départemental associant évidemment les associations de riverains, les services de l'État, SNCF, Réseau et R, afin de restituer les conclusions du rapport. Cette réunion a eu lieu il y a quelques jours. Elle s'est bien passée. Elle a consisté, évidemment, c'était le point principal de l'ordre du jour, à restituer les conclusions du rapport, à annoncer la constitution de ce fonds de 11 millions. La région Bretagne était présente à mes côtés et a indiqué que son financement à parité, c'est-à-dire pour 5,5 millions d'euros, était acquis et définitif, qu'elle solliciterait avec une clé de répartition à définir d'autres collectivités pour participer à ce fonds, mais que, et c'est une précision importante et je tiens aussi à saluer devant vous cet engagement pris par la région Bretagne, mais que quand bien même d'autres collectivités interviendraient dans le financement général des travaux, sa participation à 5,5 millions d'euros resterait acquise. En d'autres termes, nous pouvons compter, je n'en doute pas un seul instant sur la bonne volonté des collectivités autres que la région, mais nous pouvons surtout compter sur un apaisement général des tensions pour, le cas échéant, aller au-delà des préconisations du rapport du CGEDD. Je n'irai pas jusqu'à dire, parce que c'est exclu aujourd'hui dans le rapport, que l'on pourrait prendre en compte une demande forte exprimée par les riverains d'indemnisation de la dépréciation des biens, mais je pense que ces cofinancements acquis, qui pourront aller en fonction de la mise au pot, si je puis dire, d'autres collectivités, pourraient permettre, dans notre département, de faire mieux. Donc la prochaine étape va constituer pour moi, une fois cette restitution opérée, à engager vraiment toutes les études techniques nécessaires, de demander à Eiffage Rail Express d'élaborer un cahier des charges des études et d'envisager, c'est ma ferme intention, les premiers travaux début 2020. Voilà pour cette question relative aux nuisances sonores. Une question m'a été posée concernant la baie du Mont-Saint-Michel. Je vous avoue que si je vous avais demandé, Monsieur le Président, une seule question de joker sur la liste des questions qui m'ont été transmises, ça aurait été celle-là, mais je vais quand même tenter d'y répondre. Et puis, pour vous montrer quand même que j'ai avancé dans mon acquisition de la culture bretonne, j'aurais voulu y répondre de manière un peu facétieuse en vous redisant ce très joli dicton qui est et que vous connaissez tous, le Quénon dans sa folie a mis le mont en Normandie, le Quénon dans sa raison le rendra aux Bretons. En réalité, le Quénon, ni dans sa folie ni dans sa raison, ne le rendra aux Bretons, puisque, comme nous le savons tous, le Mont Saint-Michel relève désormais du patrimoine mondial de l'humanité. Et donc, j'aurais pu, si j'avais voulu être encore plus facétieuse, dire que la question qui consiste à dire quelle sera la part du département dans la retombée n'a plus lieu d'être. C'est une c'est un ouvrage remarquable qui appartient à l'humanité tout entière. Bon, je crois quand même que des étapes décisives ont été franchies ces derniers temps, notamment avec la définition concertée du périmètre de la zone tampon et puis la rédaction d'un plan paysage à l'initiative des élus animateurs de l'Interscot de la baie du Mont-Saint-Michel, dans une logique de co-construction des futures règles de gestion. Il n'a pas échappé à votre assemblée que le chef du gouvernement en personne a donné tout récemment un signal fort, puisque le 14 mars, il est venu sur place présenter le préfigurateur du nouvel épique de la baie du Mont-Saint-Michel, Christophe Beau, et que Christophe Beau a, je crois, d'ores et déjà rencontré ces dernières semaines un certain nombre d'élus bretons, ce qui signifie que la démarche de ce préfigurateur se distingue de la démarche uniquement patrimonial à l'échelle de la baie propre au plan de gestion de l'UNESCO. Le nouvel EPIC vise à optimiser les paramètres de gestion du site touristique et des infrastructures associées, avec un regard qui est évidemment très volontariste sur les retombées territoriales. Et donc sur ce point, même si le Mont-Saint-Michel appartient désormais au patrimoine mondial de l'humanité, il est légitime que les retombées rejaillissent également sur le territoire breton. Une question m'a été posée sur les conséquences du Brexit. Suite au Brexit, combien d'entreprises d'Ille-et-Vilaine seront impactées? Dans quel secteur d'activité? Combien d'emplois seront concernés? Comment l'État accompagnera ces entreprises? Alors, à l'échelle bretonne, on estime à 500 le nombre d'entreprises pour lesquelles le Brexit aura un impact direct, et compte tenu de ce que nous savons tous de l'actualité, nous allons, sans trop de doute possible, vers un Brexit dur au 31 octobre. Alors, beaucoup de secteurs sont concernés, mais en particulier l'industrie, la logistique et le secteur des transports, la pêche évidemment, parce que le Brexit aura pour la pêche un effet extrêmement brutal et immédiat. Au jour du Brexit, les eaux territoriales britanniques seront interdites aux navires français et 20% des navires de la Bretagne font la majorité de leur chiffre d'affaires dans les eaux britanniques. Donc c'est une conséquence très brutale. Et puis en plus de la pêche, bien sûr, l'agriculture. Voilà les quatre secteurs qui figurent au premier rang des entreprises impactées par le Brexit. Alors la question est posée au futur, comment l'État accompagnera ces entreprises. La question est prise très au sérieux et suivie de près par les services de l'État depuis plus d'un an maintenant. Je préside régulièrement un comité de pilotage qui a été installé et créé par mon prédécesseur. Et ce comité de pilotage associe la région, la Chambre de commerce et d'industrie, les acteurs économiques clés tels que Brittany Ferries et puis l'ensemble des services de l'État afin d'assurer la préparation de ce Brexit. J'ai, dès mon arrivée, nommé le sous-préfet de Saint-Malo, qui est aussi à droite, dans un souci de très grand pragmatisme. Hein, j'ai nommé le sous-préfet de Saint-Malo, qui travaille énormément, sous-préfet référent, pour assurer cet accompagnement, encore une fois, très pragmatique, très présent, qui a pu, à certains moments, être presque quotidien. Je me suis moi-même rendue sur le terrain auprès des pêcheurs afin de prendre vraiment la mesure de leurs inquiétudes et afin de tester auprès d'eux, et on sait bien qu'il y a souvent une différence entre les mesures qui sont annoncées au niveau national et ce qu'attendent vraiment les acteurs de terrain. Et donc je me suis déplacée 2 jours auprès des pêcheurs pour mesurer vraiment leurs inquiétudes et évaluer avec eux les outils de nature à les rassurer un petit peu. Ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'état de préparation, c'est le suivant. 1. La région Bretagne, qui est compétente sur ses infrastructures, a pleinement investi ses responsabilités et a consacré 1,3 million d'euros à adapter les infrastructures portuaires et aéroportuaires. Oui, je dis bien. D'autre part, un numéro vert gratuit a été ouvert et un Brexit Brest Tour, dont la presse a rendu compte, a été organisé dans les principales villes bretonnes, dont Rennes et Saint-Malo, pour aller directement à la rencontre des chefs d'entreprise concernés. Ce qui est clair, c'est que les grandes entreprises à fort effectif, qui sont habituées à travailler à l'international, ont elles-mêmes, sans avoir besoin de l'aide des collectivités et de l'État, anticipé les conséquences du Brexit. En revanche, il y a sans doute encore du chemin à faire pour les petites et moyennes entreprises, et c'était tout l'objectif et l'intérêt de ce Brexit Breeze Tour. Ce que je peux dire également, c'est que du point de vue de la mise à disposition des personnels nécessaires pour gérer les conséquences que va induire le Brexit, les services de l'État sont prêts. En ce qui concerne les contrôles sanitaires qui vont donc être réintroduits après le Brexit, j'ai reçu il y a tout juste quelques jours la confirmation par le ministère de l'Agriculture de la mise à disposition des effectifs vétérinaires pour procéder aux contrôles sanitaires, puisque nous disposerons à Roscoff et Saint-Malo respectivement de 5,5 ETP pour Roscoff, vous me corrigez si je me trompe, et 6 ETP, mais vous n'avez peut-être pas, même pas encore eu le courrier qui date d'hier ou d'avant-hier. Et qu'en ce qui concerne les effectifs des douanes qui ont fait, je le dis ici devant vous, un travail absolument remarquable sur fond d'un conflit social très dur, nous avons la certitude depuis de longs mois maintenant que les effectifs nécessaires seront présents. Alors je ne prétends pas que nous serons prêts, car le Brexit est véritablement un coup dur pour les entreprises. Mais en tout cas, tant les services de la région dans leurs compétences d'adaptation des infrastructures que les services de l'État dans leurs compétences de mise à disposition des personnels nécessaires pour gérer les files d'attente, y compris la PAF évidemment, ont anticipé depuis longtemps et seront prêts. Et qu'en ce qui concerne l'information des entreprises, je crois que ce Brexit Breeze Tour devra d'une manière ou d'une autre être continué et enraciné pour accompagner dans les semaines qui viennent les entreprises. Les maisons France Service. Alors, je ne peux pas, évidemment, cette question est parfaitement légitime. L'annonce est toute récente, hein, elle n'a que quelques jours, et nous avons reçu, je le disais, le 12 juin, c'est une circulaire que je vous engage d'ailleurs à lire, elle a été publiée au Journal officiel le 13 juin, c'est une circulaire du Premier ministre qui prolonge celle du 28 juillet de l'année dernière. Entre-temps, on a eu la crise des Gilets jaunes qui a un peu retardé la mise en œuvre de cette nouvelle réforme des services de l'État. Mais cette circulaire du 12 juin nous annonce et confirme les propos du chef de l'État consistant à ouvrir dans chaque canton, ce qui témoigne aussi de cette vision du chef de l'État qui reconnaît dans l'échelon départemental l'échelon de proximité pour traiter au plus près et au mieux de la problématique de l'inclusion générale. Donc nous devrons ouvrir d'ici le 1er juillet 2020, le 1er juillet 2020, donc c'est un temps très court, 300 maisons France Service qui devront adhérer à une charte, laquelle charte augmentera le bouquet des services. Est-ce que ces maisons France Service remettent en question les 8 maisons de services au public qui existent aujourd'hui en Ille-et-Vilaine? Nullement. Je crois que ce projet pour lequel l'État va mobiliser des crédits importants, puisque l'État s'est d'ores et déjà engagé à ce que lui, État, et les opérateurs contribuent à un coût de fonctionnement forfaitaire évalué à 30 000 euros par an, c'est-à-dire le coût de l'agent d'accueil dans chaque maison. Et pour cela, l'État mobilisera les fonds du FNADT et les opérateurs y contribueront. Donc nous avons devant nous un tout petit peu plus d'une année pour imaginer ensemble, y compris peut-être en faisant prévaloir la spécificité bretonne, l'installation dans chaque canton d'Ille-et-Vilaine d'une maison France Service avec un bouquet de services élargi. Et je ne doute pas un seul instant que le travail collaboratif qui va être le nôtre devra très étroitement associer les maires. Sur la question de l'implantation de ces maisons France Service en termes immobiliers, ça pourra être soit des préfectures qui auront laissé la place à des conseillers, soit des maisons de service actuelles, soit des mairies, soit des sous-préfectures, ou toute autre idée avec laquelle sur laquelle nous pourrons travailler ensemble. Une question m'a été posée, alors mon véritable joker c'est ça, si la représentante de l'ARS est parmi nous. Alors, je vais vous laisser la parole. Une question m'a été posée sur le transfert de lits de soins de suite et de réadaptation. À l'heure où les Français demandent un service public de proximité de qualité, un transfert de lits de soins de suite et de réadaptation a été annoncé sur l'établissement de Saint-Brice-en-Coglès. Ce transfert aurait des conséquences pour l'établissement de soins, etc. De quelles informations disposez-vous à ce jour quant au transfert de ces lits? Rapidement, je vous donne la parole.
On a le. Vous pouvez accéder au pupitre où il y a un micro.
Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Merci madame la préfète. Quelques mots effectivement sur cette fermeture rapide et non programmée des lits sur le site de Saint-Brice-en-Col qui, vous savez, fait partie de l'hôpital donc des Marches de Bretagne. C'est vrai que cette fermeture en tant que telle, ou ces fermetures, elles arrivent effectivement assez fréquemment l'été. Celle-ci est inopinée, elle est liée au départ non prévu d'un médecin mis à disposition par le centre hospitalier de Fougères. Et donc, en l'occurrence, pour assurer la continuité des soins des personnes actuellement prises en charge par l'hôpital donc des Marches de Bretagne, site de Saint-Brice-en-Clos, il a été décidé après... Oh, excusez-moi, une réunion avec l'ensemble des acteurs, de privilégier la continuité des soins et donc du coup de fermer quelques lits pendant de soins de suite et de réadaptation pendant la période d'été. Donc vous voyez que retenir, un, c'est vrai que nous sommes, et pas que sur le site, pardonnez-moi, des Marches de Bretagne, sur une tension liée à la démographie médicale, où c'est vrai qu'aujourd'hui, ici et là, le fait d'absence de médecins ou de départ de médecins non prévus pose aux responsables hospitaliers des questions. Si j'espère avoir répondu à votre préoccupation.
Merci beaucoup. C'est-à-dire quand on fait face au départ d'un médecin et que la sécurité n'est plus assurée, on n'a pas le choix. Alors, une question m'a été posée sur ces entreprises qui démarchent les habitants pour proposer des travaux d'amélioration de l'habitation et délivrer des certificats d'économie d'énergie. Et on sait bien que ces démarches, parfois un peu frauduleuses, s'adressent à des personnes vulnérables et souvent des personnes âgées. Alors, d'abord, je voudrais vous dire quelque chose de général, mais qui est évidemment important aussi pour le territoire brétilien. Dans le cadre du contrat d'action publique pour la Bretagne, signé par le Premier ministre, enfin en présence du Premier ministre, le 8 février dernier, nous avons beaucoup bataillé pour obtenir une forte déconcentration des crédits de l'ADEME au bénéfice de la région Bretagne, et nous avons beaucoup bataillé et obtenu cette forte déconcentration des crédits de l'ADEME, précisément parce que nous avons identifié un axe majeur d'intervention qui est le service public de la performance énergétique du bâtiment. Service public de la performance énergétique dont le gouvernement souhaite que l'ADEME se désengage petit à petit. Et nous ne sommes pas d'accord. Et donc nous avons obtenu cette différenciation en faveur du territoire breton, précisément pour mettre l'action sur la performance énergétique, qui est un sujet et dont je n'oublie pas, moi, qu'il est aussi contenu dans la crise sociale des Gilets jaunes. C'est un combat difficile, je ne suis pas sûre qu'on l'obtienne, mais je voulais juste vous rappeler ce cadrage général et la préoccupation qui a été celle du contrat d'action publique pour la Bretagne sur ce sujet-là. Sur ces démarchages pas très honnêtes, je vous en donne acte, je voudrais rappeler que c'est la mission de la DDCSPP de l'Ille-et-Vilaine qui d'ailleurs participe à l'enquête nationale lancée par la DGCCRF, enquête nationale qui est relative aux pratiques des entreprises intervenant dans ce secteur-là de l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements. Manière de vous dire que cette problématique n'a pas échappé au service de la direction générale en charge de la prévention. De la prévention des fraudes. La DDCSPP de l'Ille-et-Vilaine a d'ores et déjà, en 2019, effectué plus d'une dizaine de contrôles qui a donné lieu à des procès-verbaux. Et elle réalise également, c'est aussi son rôle, un très important travail de prévention à travers sa permanence d'accueil des consommateurs et la diffusion de communiqués de presse. Si vous pensez, mesdames et messieurs les élus départementaux, si vous estimez, si vous avez connaissance de faits de ce type qui nécessitent que les services de l'État accroissent les mesures de répression ou en tout cas de prévention, n'hésitez pas à le signaler à la DDCS-PP. Une question m'a été posée sur les corbeaux chouka. Je crois que c'est, il s'agit en fait du chouka des tours. Alors je me suis rendu compte dès visu de cette problématique, à laquelle d'ailleurs j'associe celle des sangliers, hein, et des dégâts que ces deux espèces qui sont, comme vous le savez, qui ne sont pas classées sur la liste des espèces nuisibles, parce que ce sont des espèces protégées. Donc je m'en suis rendu compte dès visu lors de mon trobrez agricole dans les 4 départements, et j'ai pu constater chez certains exploitants qui ont eu la gentillesse de me recevoir, non seulement les dégâts que ces animaux pouvait occasionner, mais quand même le désespoir que ça faisait naître chez des agriculteurs qui ont déjà de longues journées et qui doivent souvent tout recommencer à zéro. Alors, vous savez peut-être que bien qu'il s'agisse d'une espèce protégée, ce fameux chouka des tours, bien que ce soit une espèce protégée, on peut avoir des dérogations de destruction qui peuvent être sollicitées. Ce que nous avons fait, et en sollicitant une dérogation auprès du Conseil supérieur régional du patrimoine naturel, qui a refusé cette demande de dérogation. Alors, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que, on est très conscient des dégâts que ces oiseaux occasionnent. Deux, il faut poursuivre la recherche sur les moyens qu'on peut mettre en œuvre, notamment des moyens pyro-optiques, des protecteurs d'ensilage ou tout autre dispositif, et qu'il est également nécessaire de mieux connaître les raisons du comportement de ces populations pour bien mettre en œuvre les moyens adaptés. Je crois que c'est un dossier. Je voudrais ajouter aussi que, consciente du problème que ces animaux représentent, et encore une fois j'associe les sangliers, bien que le nombre de sangliers prélevés est très substantiellement augmenté sur la saison 2017-2018, j'ai fait remonter au ministère, dans le cadre de la feuille de route des priorités régionales, une aide à nous apporter, à nous comme à d'autres départements j'imagine, sur ce sujet particulier du chouka des tours et du sanglier. Une question sur la police du quotidien. La police du quotidien a été lancée le 8 février 2018, chacun s'en souvient, par Gérard Collomb. Et le quartier de Maurepas fait partie des 32 nouveaux quartiers de reconquête républicaine depuis quelques mois. Quel est le premier bilan? Alors, je profite de cette question pour dissiper peut-être une ambiguïté qui est la suivante. La police de sécurité du quotidien, elle est déployée depuis sa mise en œuvre par le ministre de l'Intérieur de l'époque, et le quartier de reconquête républicaine, la labellisation, n'est qu'un élément au sein de la police de sécurité du quotidien. Et donc la police de sécurité du quotidien dans ce département n'a pas commencé avec la décision de labellisation en QRR du quartier de Maurepas. Le département, la police de sécurité du quotidien, en gros, moi je l'explique souvent, compte tenu aussi des fonctions qui ont été les miennes précédemment à la police nationale, c'est le retour à police secours. C'est le fait pour un habitant, en zone police en tout cas, de pouvoir appeler la police et qu'elle soit là. Et donc c'est un besoin de visibilité, de réactivité et de présence sur le terrain. Et c'est précisément ça l'objectif de la police de sécurité du quotidien. Alors concrètement dans le département, elle a été mise en œuvre avec un certain nombre d'actions innovantes. Exemple, davantage de patrouilles communes, police municipale, police nationale, des opérations de maraude des gendarmes à Redon, notamment des patrouilles associant la gendarmerie nationale, la police municipale et des travailleurs sociaux qui vont à la rencontre des habitants et des commerçants. Et ce dispositif, notamment à Redon, il a été primé par le ministère de l'Intérieur lors de l'anniversaire de la police de sécurité du quotidien il y a quelques semaines. Et puis, elle s'est aussi mise en œuvre sur les territoires par la rénovation de la gouvernance qui permet et qui doit permettre aux différents acteurs d'identifier clairement un interlocuteur de police par zone. Donc, le bilan de la police de sécurité du quotidien, à la vérité, il est un peu tôt pour le faire en termes de chiffres de la délinquance, mais je crois que le bilan de la PSQ il se fait aussi en termes de ressenti de la population, et il doit passer par une réponse à la question: est-ce que vous avez l'impression que la police est plus visible, plus présente, plus réactive? Donc c'est un travail qui reste à faire. Je voudrais ajouter, pour être totalement sincère et transparente avec vous. Il ne vous a pas échappé que depuis 6 mois, c'est-à-dire le premier week-end des Gilets jaunes, police et gendarmerie ont été extrêmement mobilisés. La police pour les manifestations qui, même si elles s'essoufflent aujourd'hui, ont été très nombreuses et répétées, et la gendarmerie nationale, non seulement pour les manifestations, mais aussi pour le suivi et le démantèlement de l'occupation des ronds-points et autres espaces publics. Et donc, je serais un peu gênée de vous promettre de vous fournir d'ici un mois ou deux le bilan. Je crois que, à la faveur de l'essoufflement du mouvement des Gilets jaunes, il faut que nous reboostions cette PSQ, dont je ne doute pas un seul instant que, fondée sur les principes que j'ai rappelés, elle produira sa demande. Quant à la conséquence directe de l'obtention du label quartier de reconquête républicaine, pour lequel j'ai beaucoup milité, il va se traduire très concrètement au moment de la sortie des écoles, c'est-à-dire au mois de septembre. Nous l'espérons fort par un renfort en effectif qui permettra de compléter le dispositif PSQ et d'être plus présent et plus visible dans le quartier de Maurepas. Mais comptez sur moi pour actionner tous les tuyaux de la Direction générale de la Police nationale pour obtenir les renforts nécessaires et en quantité suffisante pour répondre aux enjeux du quartier de Maurepas, qui a besoin d'une présence policière accrue. Une question m'a été posée sur la radicalisation. Alors, vous comprendrez qu'il ne me soit pas possible de vous donner le chiffre exact des individus recensés comme radicalisés dans le département, mais je souhaite quand même vous rassurer en vous disant que le département d'Ille-et-Vilaine ne figure pas, loin s'en faut, au nombre des départements dans lesquels nous avons recensé, repéré et inscrit au FSPRT, au fichier FSPRT, le plus grand nombre d'individus radicalisés. Je voudrais, dans le contexte de cette question, vous rappeler que, quels que soient les fichiers, quel que soit leur niveau de précision, et c'est le cas du fichier FSPRT qui donne vraiment des indications de profession, de domicile, etc. C'est un fichier très précis, mais la lutte contre la radicalisation, même si on en parle moins médiatiquement, ça reste une réalité, et il ne se passe pas, je ne vais pas dire de jours ni de semaines, mais il ne se passe pas de mois dans notre pays sans que ne soient déjouées des tentatives d'attentats. Donc nous sommes en effet dans un contexte de vigilance attentat très élevé. Et je crois que cette lutte contre la radicalisation, elle doit tous nous responsabiliser. Et au premier rang des responsabilités, il y a les élus qui sont l'échelon de proximité et de terrain, qui doivent impérativement faire remonter, parce que maintenant, c'est une science un peu documentée, en tout cas, c'est un savoir un peu documenté, tous les signaux faibles de radicalisation, parmi lesquels notamment, parce que nous avons une progression dans le département, la déscolarisation des enfants et des jeunes enfants. Et donc je pense que nous sommes tous responsables, chacun dans nos fonctions et nos missions, de cette alerte à donner en présence de signaux faibles qui peuvent se révéler finalement peu inquiétants, mais qui peuvent donner le signal qu'une radicalisation est en marche. Et donc, dans ce contexte, une circulaire du ministre de l'Intérieur qui date du 13 novembre 2018 organise la mise en œuvre d'un dialogue renforcé entre l'État et les maires dans le domaine de la radicalisation. Et cette circulaire, elle a précisément pour objectif de mieux déceler les signaux faibles de radicalisation, mais aussi d'assurer les prises en charge les plus adaptées. Cette circulaire, elle limite aux communes dotées d'un CLSPD la signature d'un protocole de confidentialité qui doit permettre cet échange d'informations. Charge pour les maires de signaler ces signaux faibles de radicalisation, charge pour les services de l'État, après signature d'une charge de confidentialité, d'informer mieux les maires. Je vous en parle parce que même si elle est limitée aux communes les plus importantes qui ont un CLSPD, je ne suis pas opposée, dans une approche bretonne de différenciation, à dialoguer avec ceux d'entre vous qui le souhaiteraient pour adhérer à cette circulaire de novembre de l'année dernière. Alors, le déploiement du très haut débit en Ille-et-Vilaine. Donc, je voudrais rappeler que le gouvernement et les opérateurs de téléphonie sont parvenus en janvier 2018 à un accord assez historique visant à généraliser la couverture mobile, une couverture mobile de qualité pour tous sur l'ensemble du territoire. À la suite de cet accord entre le gouvernement et les opérateurs, la préfecture et le conseil départemental ont mis en place en septembre 2018 une équipe chargée d'identifier les zones de mauvaise couverture puis de suivre le déploiement des sites. Dans le département, dit les Vilaines, les zones à couverture limitée sont situées, sauf erreur, à proximité d'Entrain, au nord de Fougères, à l'ouest et au sud-est de Vitré, ainsi que sur la bordure forestière ouest du département et les franges sud du département. Ce qui fait quand même, quand on fait la somme des territoires que je viens d'évoquer, une portion qui n'est pas tout à fait anodine du territoire brétilien, mais il en va ici comme il en va dans d'autres départements. Pour l'année 2018, un seul site du département, en l'occurrence Montreuil-sous-Pérouse, figure dans la liste des zones à couvrir en priorité. Et pour 2019, ce sont 4 sites prioritaires qui doivent être identifiés en vue de figurer sur l'arrêté ministériel. 2 sites devraient figurer dans le prochain arrêté, parce que je dis prochain parce que sa publication est prévue dans les tout prochains jours. Un site à Saint-Ganton et un site couvrant une zone qui concerne 2 communes, Montauban de Bretagne et Médréac. Et 2 sites supplémentaires doivent encore être proposés. L'équipe projet s'est, je crois, réunie dans les jours derniers et a classé les zones étudiées par ordre de priorité. Pour 2020, la dotation couvrira à nouveau au moins 2 sites, mais plus vraisemblablement 3, voire 4, comme pour l'année 2019, et l'équipe de la préfecture et du conseil départemental se réunira pour déterminer ces sites pour 2020 le 12 septembre prochain. Donc c'est un dossier qui avance petit à petit et zone concernée par zone concernée. Question sur l'emploi en Ille-et-Vilaine. Et plus précisément la problématique de la formation ou de l'aide au recrutement pour les entreprises. Alors, comme nous le savons tous, nous avons quand même, il faut le rappeler, dans ce département qui affiche l'un des taux de chômage, si ce n'est le taux de chômage le plus bas de France, de 6,5% au quatrième trimestre 2018, nous avons, si je puis dire, des préoccupations de riches, mais malgré tout, nous avons des phénomènes contre lesquels il faut lutter et qui vont devenir des vrais enjeux, surtout le premier, et il n'est pas une entreprise dans laquelle je me déplace, grande ou moyenne, qui ne m'en parle, la difficulté à recruter et puis quand même la persistance d'un chômage de longue durée. La question m'a été posée du nombre d'entreprises de postes non pourvus. Alors, les chiffres que je peux vous donner, c'est ceux d'une enquête sur les besoins de main-d'œuvre qui a été menée en 2019 par Pôle emploi et le Crédoc et qui fait état de 42 547 projets de recrutement en Ille-et-Vilaine. Et parmi ces 42 547 projets, 58,1% sont jugés difficiles. Donc les entreprises pensent qu'elles auront du mal à recruter. Alors, d'où vient le fait qu'on ait du mal à recruter en Ille-et-Vilaine? D'abord, il y a la pénurie de candidats qualifiés pour certains postes, même si je constate que de plus en plus de grandes entreprises, et c'est une bonne chose, créent en leur sein leur propre école de formation qui permettent sans trop de problèmes de mettre à niveau les candidats. Donc l'écart entre le niveau de formation et l'attente, il a tendance, comme toujours quand on tangente le plein emploi, à se réduire, et c'est une bonne chose. Il n'en va pas de même, et je crois aussi que les entreprises, mais c'est valable aussi pour les administrations, doivent aussi faire un bout de ce chemin, parce que dans les processus de recrutement, on a et on a de plus en plus cette idée du candidat rêvé qui va tomber du ciel et qui va parfaitement. C'est une idée fausse, qui a toujours été fausse, et il serait peut-être temps de redécouvrir le sens du compagnonnage et de la responsabilité qui est celle du recruteur à accompagner la personne recrutée dans l'acquisition des compétences. Et donc le delta entre le candidat rêvé et le candidat, ben, comme par hasard, il se restreint en période de plein emploi, et au final, je crois que les recrutés remplissent les missions qui leur sont confiées. Il y a aussi, on le sait, un déficit d'attractivité pour dans certains secteurs, et peut-être que les chefs d'entreprise doivent aussi faire un effort pour renouveler l'attractivité de leur secteur. Et puis il y a aussi, nous le savons, et c'est aussi le cas pour les chômeurs de longue durée, des problèmes de savoir-être, des problèmes de savoir-être professionnel qui peuvent freiner les recrutements. Alors, je signale, pour ne pas être trop longue, que la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, elle constitue un engagement à un très haut niveau pour l'État en faveur de la formation professionnelle, et que le plan d'investissement dans les compétences dispose d'un volet régional de déclinaison qui est le pacte régional d'investissement dans les compétences qui a été signé le 8 avril dernier, et que ce plan régional d'investissement dans les compétences, la région a choisi délibérément de le faire porter sur les publics les plus éloignés de l'emploi, parce que c'est un objectif gagnant-gagnant, c'est former mieux ces publics les plus éloignés de l'emploi et permettre aux entreprises de recruter ce qui nous reste de chômage dans la région Bretagne, et particulièrement dans ce département. Je voudrais signaler une autre entreprise qui a l'air de démarrer très fort, et je m'en félicite, et vraiment j'en félicite les entreprises brétiliennes, mais je crois que c'est aussi dans leur ADN, qui est l'opération La France, une chance, les entreprises s'engagent. C'est une entreprise qui a été lancée à l'Élysée le 17 juillet dernier avec des grands patrons d'entreprise, mais que le chef de l'État a souhaité décliner dans chacun des départements. Et j'ai signé le 29 avril une charte d'engagement départemental entre l'État et le club d'entreprise et le club des entreprises d'Ille-et-Vilaine. À ce jour, et c'est un beau succès, 180 entreprises ont été pré-identifiées par les têtes de réseau, et je voudrais vous dire que l'UE35 et la Fondation FAS sont vraiment identifiées comme étant particulièrement volontaristes pour décliner cette opération nationale « La France, une chance, les entreprises s'engagent » au mieux des intérêts non seulement des demandeurs d'emploi, mais également des entreprises qui ont du mal à recruter. Alors, argent de poche. Je signale en passant quand même l'extension du pass culture après l'expérimentation menée dans le département du Finistère, réalisée il y a quelques jours à l'ensemble des jeunes bretons de leur 18e anniversaire jusqu'à leur 19e anniversaire. Ce pass culture, l'expérimentation a révélé que les jeunes bretons en faisaient une utilisation extrêmement intelligente et privilégiaient en premier le livre, puis les spectacles, puis le cinéma, et enfin seulement, c'est un peu contre-intuitif, les jeux vidéo. Et que ce pass culture va se traduire par la mise à disposition de 500 euros à dépenser dans l'année pour tous les outils culturels que les jeunes bretons souhaiteront, parce qu'il est quand même légitime, Monsieur le Président, que votre Assemblée me permette de valoriser les initiatives de l'État. Alors, le dispositif argent de poche, il se trouve qu'au cours d'une visite la semaine dernière, j'ai rencontré monsieur le maire de Plouer-sur-Rance. Non, je l'ai rencontré, pardon, à notre journée nationale. Il m'en a reparlé deux fois, la pédagogie étant l'art de la répétition. Et qui m'a fait part de son grand embarras, parce que même si, alors c'est un très vieux dispositif, le dispositif argent de poche, initié au moment du lancement de la politique de la ville en 81. Et puis ici, comme ailleurs j'imagine, mais pas partout, il a été étendu à des zones rurales. Et il est, me semble-t-il, très apprécié et très porteur d'intégration des jeunes et de responsabilisation des jeunes. Cependant, ce dispositif, il a un peu été à tort étendu dans toutes les zones, alors que d'emblée, dès l'origine, il avait vocation à s'appliquer plutôt au quartier politique de la ville. Et je vous concède bien volontiers que la relégation n'est pas uniquement présente dans les quartiers politiques de la ville, mais que le milieu rural en souffre également, et notamment les jeunes. Et pour ma part, je trouve qu'il est tout aussi justifié en milieu rural que dans les quartiers politiques de la ville, qui en plus disposent d'autres opérations. En tout état de cause, et ça, je suis aussi en charge de l'application des politiques publiques, une instruction du Commissariat général à l'égalité des territoires a défini en 2018, enfin a demandé un vrai resserrement et a demandé de limiter ce dispositif argent de poche qui s'appelle désormais chantier et stage à caractère éducatif dans le cadre du dispositif Ville-Vie-Vacances au seul quartier prioritaire politique de la ville. Je suis ennuyée vis-à-vis de vous parce que je crois que l'information par le réseau jeunesse a été imparfaite et donc j'ai demandé, et elle n'a pas trop râlé, à madame la directrice, dans un souci de sortie en sifflet, de se débrouiller, ce que j'espère elle va réussir à faire, pour maintenir toute l'année 2019 ce dispositif argent de poche. L'idée, c'est qu'en 2020, ça soit recentré. Peut-être que la messe n'est pas totalement dite et qu'on arrivera à obtenir des dérogations. Mais en tout cas, soyez rassurés, pour 2019, toutes les communes qui ont continué à utiliser ce dispositif bénéficieront des crédits nécessaires. Voilà, Monsieur le Président. Si je ne veux pas être... Je regarde s'il y a d'autres... Mais on a pratiquement fait le tour. Passe Culture, j'en ai parlé. Et je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions.
Madame la préfète, merci de vous être prêtée à cet exercice. Et il est vrai que la production avait été particulièrement abondante, mais c'est dire que certainement que votre venue, c'était la première aussi dans cette configuration, était attendue et vous vous êtes efforcée d'apporter réponse, y compris parfois constat que la réponse n'est pas forcément celle qui est attendue, mais je crois que c'est la poursuite de ce dialogue qui doit permettre d'avancer. Il y aura sans doute peut-être, pour si quelques questions n'avaient pas été traitées, transmission de vos projets de réponse aux élus qui les ont formulés. En tout cas, merci pour votre disponibilité, celle de toute votre équipe, très largement mobilisée pour cette circonstance. Alors, nous le savons aussi, il y a des concertations qui s'engagent, notamment sur la question des réseaux du Trésor public, qui vont abondamment mobiliser les élus. Il y a des inquiétudes qui pointent, mais je sais que monsieur le directeur régional des finances publiques a préparé sa tournée, si je puis dire, des rencontres et des échanges. Donc laissons ce temps-là se dérouler et le moment venu, nous pourrons être amenés à nous exprimer sur ce sujet-là. Donc nous vous retrouvons, je crois, pour 13h, hein, pour participer à notre déjeuner. En tout cas, merci et à tout de suite. Je vais donc proposer au président et à nos anciens collègues de venir s'installer pour que nous puissions passer à la phase de l'Assemblée générale de l'Amicale.